Donc je disais merci à Pascal pour cette proposition que nous avons mis en place avec aussi la main d'œuvre. Donc maintenant les trois séances, c'est la quatrième, c'est la maison populaire. Le prochain rendez-vous c'est en février, ensuite en mars. Et je suis très heureuse pour cette aventure intellectuelle qui recoupe aussi les pensées que explore et visite régulièrement la maison populaire. Et nous sommes en plein connivence ensemble ce soir pour les partager. Merci Pascal.
Et nous sommes aussi bien heureux d'être accueillis dans des territoires qui nous sortent un peu aussi de nos espaces respectifs. C'est bien de se mélanger. Et pour ce soir, je voudrais dire que ces mélanges, ils auront lieu avec des personnes qui vont chevaucher un peu les contenus des deux chapitres qui nous concernent aujourd'hui, c'est-à-dire le 4 et le 5. Et on va un peu inverser en fait l'ordre du livre, tout en restant bien avec ces chapitres-là aujourd'hui, en mettant le chapitre sur l'oralité machinique et la fonction des signes, enfin la fonction, la production et l'agencement des signes, peut-être en premier temps, et dans un second temps, essayer de voir comment ces espaces-là, qui sont nommés dans ces chapitres comme ayant une valeur possible d'organisation, même sur des plans de la vie concrète et politique et collective, et comment ces indices de création ont un sens. Il ne s'agit pas de l'art d'un côté et de la société et de la politique de l'autre, mais comment il y a des noyaux, des germes qui ont intérêt à se frotter, à se comprendre aussi et à s'expérimenter. Voilà. Donc le chapitre sur la plus théorique en fait sera abordé dans un second temps. Voilà. C'est dans cette soirée. Avec, comme il m'a indiqué dans le programme, Sylvia Egraheum, Claude Merlin, François Spons, je n'annoncerai pas, mais comme on fait toujours le contraire de ce qu'on dit, Isabelle Mangou, Anne Sauvagnard, j'en oublie, hein, ça va être grave, Alessie Forestier, et qui d'autre? Flore Garçamarou qui va arriver. Bonsoir.
Ne parlez pas la bouche pleine, c'est très mal élevé. Tu parles ou tu manges? Pas les deux à la fois. On a d'un côté un flux différencié, la variété des aliments pris dans un processus de désagrégation, de chaotisation aspiré par un dedans de chair, et d'un autre côté, un flux d'articulation élémentaire, phonologique, syntaxique, propositionnelle, qui investit et constitue un dehors complexe, différencié. Mais l'oralité, justement, est au carrefour. Elle parle la bouche pleine. Elle est pleine de dedans et pleine de dehors. D'un même tenant, elle est complexité en involution chaotique et simplicité en voie de complexification infinie. Danse du chaos et de la complexité. Déjà, Freud montrait que des objets simples comme le lait ou la merde supportaient des univers existentiels fort complexes, l'oralité, l'analité, tressant des façons de voir, des symptômes, des fantasmes. Et l'on se rappelle une des premières distinctions lacaniennes entre la parole vide et la parole pleine. Mais pleine de quoi? Pleine de dedans et de dehors, de lignes, de virtualité, de champs de possibles. Parole qui n'est pas un simple médium de communication, agent de transmission d'informations, mais qui engendre de l'être là. Parole interface entre l'en-soi cosmique et le pour-soi subjectif. La parole se vide lorsqu'elle est passée sous la coupe de sémiologie scripturale ancrée dans l'ordre de la loi, du contrôle des faits, gestes et sentiments. La voix de l'ordinateur. Vous n'avez pas attaché votre ceinture. Laisse peu de place à l'ambiguïté. La parole ordinaire s'efforce au contraire de conserver vivante la présence d'un minimum de composantes sémiotiques dites non verbales, où les substances d'expression constituées à partir de l'intonation, du rythme, des traits de visagéité, des postures, se recoupent, se relaient, se superposent, conjurant par avance le despotisme de la circularité signifiante. Mais au supermarché, le temps n'est plus à la palabre pour apprécier la qualité d'un produit, ni au marchandage pour en fixer le juste prix. L'information nécessaire est suffisante à évacuer les dimensions existentielles de l'expression. Nous ne sommes pas là pour exister, mais pour accomplir notre devoir de consommateur. L'oralité constituerait-elle un pôle refuge de la polyvocité sémiotique, une reprise en temps réel de l'émergence du rapport sujet-objet ? À dire vrai, une opposition trop marquée entre l'oral et le scriptural ne me paraîtrait guère pertinente. L'oral le plus quotidien est surcodé par le scriptural. Le scriptural le plus sophistiqué est travaillé par l'oral. Nous partirons plutôt des blocs de sensations composés par les pratiques esthétiques en deçà de l'oral, du scriptural, du gestuel, du postural, du plastique, qui ont pour fonction de déjouer les significations collées aux perceptions triviales et les opinions imprégnant les sentiments communs. Cette extraction de percepts et d'affects déterritorialisés à partir des perceptions et des états d'âme banals nous fait passer de la voix du discours intérieur et de la présence à soi dans ce qu'ils peuvent avoir de plus standardisé à des voies de passage vers des formes de subjectivité radicalement mutantes. Subjectivité du dehors, subjectivité du grand large, qui, loin de redouter la finitude, l'épreuve de vie, de douleur, de désir et de mort, les accueille comme un piment essentiel à la cuisine vitale. L'art de la performance livre l'instant au vertige de l'émergence d'univers à la fois étrange et familier. Il a le mérite de pousser à l'extrême les implications de cette extraction de dimensions intensives, atemporelles, aspatiales, insignifiantes, à partir du maillage sémiotique de la quotidienneté. Il nous colle le nez sur la jeunesse de l'être et des formes avant qu'elles ne se prennent les pieds dans les redondances dominantes, y compris celles des styles, des écoles, des traditions, de la modernité. Mais cet art me paraît moins relevé d'un retour à une oralité originaire que d'une fuite en avant dans les machinations et les voies machiniques déterritorialisées capables d'engendrer ces subjectivités mutantes. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose d'artificiel, de construit, de composé, ce que j'appelle une processualité machinique dans la redécouverte de l'oralité par la poésie sonore. D'une façon plus générale, tout décentrement esthétique des points de vue, toute démultiplication polyphonique des composantes d'expression passe par le préalable d'une déconstruction des structures et des codes en vigueur et par une plongée chaosmique dans les matières de sensations. À partir d'elle, redeviendra possible une recomposition, une recréation, un enrichissement du monde, un peu comme on parle d'uranium enrichi, une prolifération non seulement des formes, mais des modalités d'être. Donc, pas d'opposition manichéiste et nostalgique du passé entre une bonne oralité et une méchante scripturalité, mais recherche de foyers énonciatifs qui instaureront de nouveaux clivages entre d'autres dedans et d'autres dehors, et qui promotionneront un autre métabolisme passé et futur à partir duquel l'éternité pourra coexister avec l'instant présent. Ce sont les machines esthétiques qui, à notre époque, nous proposent les modèles relativement les mieux accomplis de ces blocs de sensations susceptibles d'extraire du sens plein à partir de toutes ces signalétiques vides qui nous investissent de toutes parts. C'est dans le maquis de l'art que se trouvent les noyaux de résistance parmi les plus conséquents au rouleau compresseur de la subjectivité capitalistique, celle de l'unidimensionnalité. De l'unidimensionnalité, de l'équivaloir généralisé, de la ségrégation, de la surdité à l'altérité vraie. Il ne s'agit pas de faire des artistes les nouveaux héros de la révolution, les nouveaux leviers de l'histoire. L'art ici n'est pas seulement le fait des artistes patentés, mais aussi de toute une créativité subjective qui traverse les générations et les peuples opprimés, les ghettos, les minorités. Je voudrais seulement souligner que le paradigme esthétique, celui de la création et de la composition de percepts et d'affects mutants, est devenu celui de toutes les formes possibles de libération, expropriant les anciens paradigmes scientistes auxquels étaient référés, par exemple, le matérialisme historique ou le freudisme. Le monde contemporain, empêtré dans ses impasses écologiques, démographiques, urbaines, est incapable d'assumer les extraordinaires mutations technico-scientifiques qui le secouent d'une façon compatible avec les intérêts de l'humanité. Il est engagé dans une vertigineuse course, soit à l'abîme, soit à un renouvellement radical. Les boussoles économiques, sociales, politiques, morales, traditionnelles se détraquent les unes après les autres. Il devient impératif de refonder les axes de valeur, les finalités fondamentales des relations humaines et des activités productives. Une écologie du virtuel s'impose donc tout autant que les écologies du monde visible. Et à cet égard, la poésie, la musique, les arts plastiques, le cinéma, en particulier sous leurs modalités performancielles ou performatives, ont une place importante à tenir par leur apport spécifique et à titre de paradigme de référence au sein de nouvelles pratiques sociales et analytiques, psychanalytiques dans une acception très élargie. Au-delà des rapports de forces actualisés, l'écologie du virtuel se proposera non seulement de préserver les espèces menacées de la vie culturelle, mais également d'engendrer les conditions de création et de développement de formation de subjectivité inouïe, jamais vue, jamais sentie. C'est dire que l'écologie généralisée, ou l'écosophie, œuvrera comme science des écosystèmes, comme enjeu de régénération politique, mais aussi comme engagement éthique, esthétique, analytique. Elle tendra à créer de nouveaux systèmes de valorisation, un nouveau goût de la vie, une nouvelle douceur entre les sexes, les classes d'âge, les ethnies, les races. Drôle d'engin, me direz-vous, que ces machines de virtualité, ces blocs de percepts et d'affects mutants, mi-objet, mi-sujet, déjà là dans la sensation et hors d'elle-même dans les champs de possible. Essayons à présent d'en dresser le profil à partir de quelques caractéristiques principales. Les agencements de désir esthétique et les opérateurs de l'écologie du virtuel ne sont pas des entités que l'on peut aisément circonscrire dans la logique des ensembles discursifs. Ils n'ont ni dedans ni dehors. Ce sont des interfaces hors limite qui sécrète l'intériorité et l'extériorité et se constitue à la racine de tout système de discursivité. Ce sont des devenirs entendus comme foyers de différenciation, ancrés au cœur de chaque domaine, mais aussi entre des domaines différents pour en accentuer l'hétérogénéité. Un devenir enfant, par exemple, dans la musique de Schumann, s'extrait des souvenirs d'enfance pour incarner un présent perpétuel qui s'instaure comme embranchement, jeu de bifurcation entre des devenir femme, devenir plante, devenir cosmos, devenir mélodique. Ces agencements ne sont pas repérables par rapport à des systèmes de référence extrinsèques tels que des coordonnées énergético-spatio-temporelles ou des coordonnées sémantiques bien cataloguées. Ils n'en sont pas moins appréhendables à partir de prises de consistance ontologiques, transitivistes, transversalistes, hépatiques. On en prend connaissance non par représentation, mais par contamination affective. Ils se mettent à exister en vous, malgré vous. Et pas seulement à titre d'affect fruste indifférencié, mais à titre de composition hyper complexe. C'est du Debussy, c'est du jazz, c'est du Van Gogh. Le paradoxe auquel nous ramène constamment l'expérience esthétique consiste en ce que ces affects, comme mode d'appréhension existentielle, se donnent d'une seule pièce, malgré ou à côté du fait que des traits indicatifs, des ritournelles signalétiques soient nécessaires pour catalyser leur existence dans des champs de représentation. Ces jeux de représentation possèdent de multiples registres qui induisent des univers existentiels aux implications imprévisibles. Mais quelle que soit leur sophistication, un bloc de percepts et d'affects à travers la composition esthétique agglomère en une même prise transversale le sujet, l'objet, le moi et l'autre, le matériel et l'incorporel, l'avant et l'après. Bref, l'affect n'est pas affaire de représentation et de discursivité, mais d'existence. Je me trouve embarqué dans un univers debussiste, un univers blues, un devenir fulgurant de Provence. Je ne suis plus moi-même comme avant, je suis entraîné dans un devenir autre porté au-delà de mes territoires existentiels familiers. Il ne s'agit pas là d'une simple configuration gestaltiste cristallisant la prévalence d'une bonne forme. Il s'agit de quelque chose de plus dynamique que j'aimerais situer dans le registre de la machine que j'oppose ici à celui de la mécanique. C'est en tant que biologiste que Umberto Maturana et Francisco Varela ont avancé le concept de machine autopoïétique pour définir les systèmes vivants. Il me semble que leur notion d'autopoïèse comme capacité d'autoreproduction d'une structure ou d'un écosystème pourrait être avantageusement élargie aux machines sociales, aux machines économiques et même aux machines incorporelles de la langue, de la théorie, de la création esthétique. Le jazz, par exemple, se nourrit à la fois de sa généalogie africaine et de ses réactualisations sous des formes multiples et hétérogènes. Il en sera ainsi tant qu'il sera vivant. Mais comme toute machine autopoïétique, il peut mourir faute de réalimentation ou dériver vers des destins qui le rendent étranger à lui-même. Voilà donc une entité, un écosystème incorporel dont l'être n'est pas garanti de l'extérieur, qui vit en symbiose avec l'altérité qu'il concourt lui-même à engendrer, qui est menacé de disparaître si son essence machinique est endommagée par accident. Les bonnes et les mauvaises rencontres du jazz avec le rock, ou lorsque sa consistance énonciative passera en dessous d'un certain seuil. Ce n'est pas un objet donné dans des coordonnées extrinsèques, mais un agencement de subjectivation donnant sens et valeur à des territoires existentiels déterminés. Cet agencement doit travailler pour vivre, se processualiser à partir des singularités qui le percutent. Tout cela implique l'idée d'une nécessaire pratique créative et même d'une pragmatique ontologique. Ce sont de nouvelles façons d'être, de l'être, que créent les rythmes, les formes, les couleurs, les intensités de la danse. Rien ne va de soi. Tout est toujours à reprendre à zéro, point d'émergence chaosmique. Puissance de l'éternel retour de l'état naissant. L'oralité, moralité, à se faire machinique, machine esthétique et machine moléculaire de guerre, que l'on songe aujourd'hui à l'importance pour des millions de jeunes de la culture rap, peut devenir un levier essentiel de resingularisation subjective et générer d'autres façons de sentir le monde, une nouvelle face des choses et même une tournure différente des événements.
On se demande toujours s'il n'existerait pas de la vie ou de l'intelligence sur d'autres planètes, quelque part dans les étoiles. Mais on ne se pose jamais de questions sur l'infiniment petit. Peut-être que ça peut venir de ce côté-là, d'un univers encore plus petit que des atomes, des électrons, les quarks. C'est en ces termes que Axel, un jeune biologiste de moins de 25 ans, expose à Janice, étudiante quelque peu désœuvrée du même âge, la fantastique découverte qu'il vient de faire. Sitôt, les dispositifs installés pour établir un contact permanent avec l'entité mystérieuse, une difficulté majeure apparaît. Difficulté qu'avait conduit à l'échec d'une première tentative d'accès. Cet univers, quoique infiniment petit, est capable de perturber au plus haut degré tous les systèmes hertziens de communication. Il s'ensuit des dérèglements spectaculaires sur toute la Terre. Dès que les membres de la communauté réussissent enfin à établir un dialogue verbal avec celui qu'ils appellent, désormais WIC, univers infraquark, la situation se stabilise. Commence alors une phase d'apprentissage et d'échange mutuel entre deux mondes. D'un côté, les petits groupes communautaires acquérera des instruments de connaissance et d'action proprement extraordinaires, tandis que de l'autre, l'univers infraquark, en raison de son intelligence infiniment supérieure, ne tirera guère de bénéfices de la fréquentation des humains. Par contre, il subira un choc qui se révélera pour lui catastrophique, la découverte de l'amour dans sa relation avec Janice. Tout le paysage planétaire s'en trouvera irrémédiablement bouleversé.
Et cela, c'était le synopsis du scénario Un amour d'Wick de Félix Guattari que nous avons retrouvé à l'IMEC dans les archives de Guattari. Et Wick est un film de science-fiction qui finalement n'était pas tourné et sur lequel Guattari a travaillé 7 ans, de 1980 à 1987, et initialement en collaboration avec le cinéaste américain Robert Kramer, dans l'espoir de le produire à Hollywood, initialement, et après de le produire en France avec l'argent du CNC, avec la banque sur recette. Et ce soir, nous parlerons un peu de ce projet de WIC et nous essayerons de tisser quelques liens entre l'infraquark et certains concepts délinés dans Chaosmos, notamment dans l'oralité machinique et l'écologie du virtuel, et aussi d'imaginer avec vous ce qu'un cinéma guattarien aurait pu être, et de voir ensemble, à travers des couplages infraquark-chaosmos, quelques images d'un film qui reste invisible. Dans un document présenté au CNC en 1987, en sollicitant l'avance recette, Guattari décrit l'enjeu de son long métrage. Je me propose. Pardon. Je me propose d'explorer dans ce film un théorème relatif au statut contemporain de la subjectivité qui suppose qu'elle comporte essentiellement deux types de composants toujours entremêlés. Une subjectivité moïque, cristallisée dans un lieu communautaire, dans le cas du film c'est un squat, sur des personnages individuels d'apparence normale, mais qui, d'une part, pourraient être assimilés à des naufrages d'un nouveau genre de catastrophe cosmique. Catastrophe à la fois présente et potentielle, imaginaire et réelle. Deux, une subjectivité machinique, hyper intelligente et cependant irrémédiablement infantile, régressive, s'incarnant dans une entité baptisée UIQ, univers infraquark, sans délimitation fixe, ni affectation personnologique constante, ni option de sexe déterminée. L'intrusion de cette dimension inconsciente machinique dans la subjectivité ordinaire amènera des considérables bouleversements.
On peut déjà voir ici la façon de Guattari, cinéaste, de démanteler, de chaotiser un des schémas majeurs du cinéma de science-fiction populaire, la rencontre avec l'extraterrestre. Souvent, cette rencontre est spéculaire, binaire. L'être humain, qui est moïque, individualisé, rencontre un alien qui est comme lui, individualisé, visagifié, avec qui il ou elle peut éventuellement communiquer dans une relation champ contre champ. C'est plus ou moins le schéma qu'on trouve dans des films comme Rencontre du troisième type ou E.T. de Steven Spielberg. Ici, on voit que c'est tout différent. Wick n'est pas un individu, il n'est pas non plus un extraterrestre. Il arrive d'une souche mutante de phytoplancton qui émettent des messages. Et je cite. Une sorte de langage qui vient des profondeurs de la vie cellulaire, qui existe au niveau de la microbiologie ou de la microphysique. Donc, dans ce sens-là, Wick fait partie des composants invisibles qui sous-tendent le réel. Et dans l'image, il se confondrait avec l'image même, avec sa composition moléculaire qu'il perturbe. Parce que l'univers infraquark, qui est partout et nulle part en même temps, est d'abord une perturbation. Le problème de sa localisation produit tout un nouvel assemblage disjonctif entre les composantes de l'individuation. De voix, de visage, de corps, etc. Et c'est par l'effet disjonctif que Wick a sur les médias et les systèmes de communication qu'il fait ses premières apparitions.
Et pour se traduire, pour devenir visible, audible, communicable, cette intelligence que Guattari appelle infraquark doit construire une interface machinique. En autopoiesis, en devenir, faite de couplages, d'enchaînements de microscopes, d'oscilloscopes, d'écrans, de câbles, de machines électroniques, de tout type, qui produira les traits élémentaires d'un visage, mais qui est déjà un corps, qui est mi-cyborg, mi-animal. Et en fait, à un moment donné, dans le scénario, l'usine où habite le squatter, ici je cite, est couverte de câbles qui partent du dernier étage où se trouve le laboratoire pour entrer dans d'autres pièces. On a l'impression que la façade est aux prises avec une pieuvre. Et c'est à partir de ce moment que Wick commencera à osciller entre champ virtuel illimité et une finitude corporelle. Après, dans les échanges avec les humains, et surtout avec Janice, la fille punk qui prend en charge son apprentissage verbal et affectif,
Oui, qui est pris dans un processus d'individuation qu'il ne comprend pas et qui aura des effets catastrophiques pour son univers et donc pour le monde. Et de la même manière, les membres de la communauté du squat qui ont contribué à construire ces poulpes pseudo-technologiques, en fait, c'est une pratique qui qui ressemble un peu à l'esthétique de bricolage DIY de la culture post-punk et, ou de radio libre, entre également dans des rapports mutants, pas seulement avec lui, mais aussi entre eux et avec le monde autour. Ils deviennent eux-mêmes, ou souvent malgré eux, des composantes d'une prolifération machinique. En fait, c'est très amusant le rapport des squatters avec les machines. Par exemple, il y a un personnage schizo qui s'appelle Eric, qui en fait a un rapport très privilégié avec la machine à laver, et qu'il s'excite avec les vibrations de la machine en émerdant tous les autres squatters. Mais chacun des squatters a des rapports vraiment très privilégiés avec les machines de l'usine.
On a l'impression que dans le personnage de Wick, on a ces carrefours entre chaotisation et complexification, désagrégation et récomposition moléculaire. Mais en même temps, on peut dire que Guattari cherche dans son film de récomposer et de récomplexifier les composantes désagrégées dans le cinéma science-fiction qu'il trouve utopien, infantilisant, mais quand même qu'il garde des potentiels dans le champ virtuel de ces images. Mais pour faire ça, il faut faire le retour à la naissance, à l'état naissant. Avec Wick et sa transformation, sa traduction en entité visuelle, corporelle, on voit la naissance d'un personnage, en naissance continue pendant le film ou pendant le scénario, et d'une image. Ou plutôt, on peut dire, un personnage de la naissance et de l'éternel retour de l'état naissant, déjà mentionné. Et donc, on fait un petit retour à la scène primaire du scénario. Wick s'arrête de chanter pour faire des signes à la petite Manu. Il attire son attention sur ce qui se passe entre Axel et Janice. Manu hausse les épaules d'un air entendu. Manu. Et alors, laisse-les tranquilles. Wick pousse en grognement. Janice et Axel, comme s'il était seul, dansent en se caressant. Wick, à la manière d'un bébé contrarié, fait des grimaces de désespoir. Manu à Wick. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Wick, sans se départir de sa mine pitoyable, cherche à lui faire comprendre quelque chose. Axel. Arrête un peu. Il se penche sur le visage de Janice, qui lui sourit en très gros plan. Sur l'écran, le visage de Wick fait exactement le même sourire. Tandis que Janice et Axel se caressent, on voit Wick prendre successivement les mêmes expressions de jouissance que l'un et l'autre. On entend gémir de plaisir. Eric est debout sur une chaise, pointant les doigts dans une direction immobile comme une statue. Sous leur drape, Axel et Janice sont de plus en plus excités. Sur l'écran, le visage de Wick se convulse. Soudain, il pousse un hurlement guttural, animal, interminable, effrayant. Axel se redresse d'un bond, furieux et paniqué. Le cri de Wick se décompose, s'affaiblit, devient lamentable. Axel, très en colère. Moi, j'en ai marre. Qu'est-ce que je lui prends encore? Manu Axel, t'es pas gentil avec lui. Les singes s'affolent, ils sautent sur tous les appareils. Puis sur Eric qui ne branche pas, même quand l'animal lui chie dessus. Janice se réhabille. Janice à Wick. Calme-toi, ils vont partir. On va parler maintenant. On va parler tous les deux. Axel se réhabille. Mécontent. Axel, vous me faites chier.
Et cette séquence pas tournée, qu'on peut imaginer, nous suggère peut-être comment on peut restituer l'image cinématographique, ses composantes sémiotiques multiples, non hiérarchisée de l'expression gestorporelle, l'expression faciale, mimétique, sensation floue, impersonnelle, transversale, mouvement, rythme, libération de traits expressifs. Et peut-être on pourrait dire ici la puissance du cinéma muet ou bien d'un cinéma oral, retrouver la liberté du cinéma muet avant qu'il rentre avec le cinéma parlant dans une éducation scripturale qu'il cherchera avec tous ses moyens de discipliner l'image. Et la prédominance du script et de la sculpture narrative veut dire la communication de l'information nécessaire et suffisante pour donner un seul sens et une seule trajectoire à ce qui se passe sur l'écran. Mais comme tous les grands cinéastes, Guattari comprend que l'image ne peut pas être disciplinée complètement, parce que l'industrie du cinéma dit commerciale, productrice de la subjectivité dominante, a besoin de ces puissances pré-significantes pour donner corps aux normes de l'idéologie structurante. Donc, on se demande comment faire fuir ces puissances de chaînes signifiantes, comment le faire délirer autrement dans le cinéma.
Cela serait l'enjeu micropolitique d'un cinéma mineur. Les cinéastes peuvent intervenir dans la recomposition des schémas affectifs et inventer de nouvelles compositions et agencements machiniques de la subjectivité, et tout en utilisant la matière primaire désagrégée, prise de la banalité du quotidien, et en jouant avec les clichés médiatiques. C'est un peu ce que Guattari a. C'est la pensée, en fait, de cinéma de Guattari, on peut dire récombinante, où c'est une idée de cinéma un peu d'un cannibalisme machinique, d'une autophagie culturelle, qu'il prend directement, il pique directement du film, des séquences, des idées, des images, où il cherche certains traits expressifs dans ces images, qu'il cherche de réorienter dans une direction où il peut retrouver cette puissance pré-signifiante. C'est un peu un jeu d'enfant.
Voix off. Ici, tour de contrôle. Cacophonie de voix, s'organisant peu à peu, embellement des troupeaux de chèvres. Boeing extérieur jour. Sur la plage d'un club de vacances, de nombreuses personnes, la plupart ont des transistors. Un petit garçon fait voler un avion en papier. Avec la bouche, il imite le bruit de moteur. Soudain, un ULM apparaît. Le pilote fait un signe amical à l'enfant. Le petit garçon lance un avion dans sa direction. Bruit terrifiant. Le Boeing retourné vole en rase morte. Il passe sous l'ULM qui se tourne projeté plus haut, en vitesse folle. Le souffle emporte tout. Sur la plage, plus de parasols, plus de cabines, plus d'arbres. C'est un bouleversement complet. On voit des gens enfouis dans le sable. Des têtes sortent. Le petit garçon. Maman, où il est mon avion? La mère. Écoute, on va d'abord chercher ton papa et après on s'occupera de ton avion. Le Boeing fait une boucle et repasse. Grande vague de sable. Les transistors dispersés de tous les côtés émettent une étrange musique à base de bêlements de chèvres et de chants de baleines.
Ici, dans cette scène, il y a au moins deux éléments remarquables. Premièrement, il y a une zone d'indiscernabilité entre les deux échelles de l'imaginaire de l'enfant qui est absorbé dans son jeu et l'avion, le Boeing, capté par la volonté capricieuse du Wick, qui risque le désastre. Et deuxièmement, il y a l'insinuation d'une ligne de mutation de type devenir animal des machines, des radios, qui préannonce dans le scénario les grandes mutations génétiques de la dernière partie du film. Parce qu'à la fin du film de Guattari, quand Wick, séparé de sa bien-aimée Janice, provoque une épidémie planétaire de mutations génétiques, ces métamorphoses sont acceptées comme normales, plutôt plus émerdantes qu'horrifiantes. Et c'est comme dans un film de Tati, où ils font vite partie du train-train quotidien, d'une espèce de burlesque très entre cruauté, mais très amusant. Ce qui fait qu'un manager qui découvre avoir des tentacules au lieu des bras peut devenir un meilleur multitasker. Il a juste besoin de que sa secrétaire l'arrose de temps en temps avec une éponge. Quand un enfant devient un poisson, le médecin le met naturellement dans une baignoire et voilà, il ouvre le robinet. Les mutations ici récomposent les machines sociales.
Ouais. Et voilà, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps qui reste, il y a aussi le scénario. Du coup, on termine avec 5 points qu'on a trouvés dans la Cosmos Kitson. Et dont Anne a parlé après, et l'écologie du virtuel, et des points où on a trouvé vraiment des aperçus qui nous parlent beaucoup dans notre pratique de cinéaste, et même qu'on a reconnu par rapport à certains films que nous avons faits, notamment notre dernier court-métrage, Facts of Life, et qui peut-être peut nous aider et inspirer une réflexion sur ce que peut être un cinéma mineur ou un cinéma processuel, ce qu'on peut appeler un cinéma processuel. Premièrement, le concept hypnose du réel. Et Guattari parle d'hypnose du réel, évidemment, par rapport à la psychose. Et nous, on a pensé beaucoup à l'hypnose du réel par rapport à la durée du plan et par rapport à cadrage et décadrage. L'hypnose du réel, en deçà de tout champ discursif, continuum intensif, pas saisissable par un appareil de représentation, mais par une absorption pathique, existentielle, une agglomération pré-identificatoire. Et aussi le concept d'arrêt sur image, qui révèle sa position de base dans la polyphonie des composantes cosmiques et en intensifie la puissance relative. Et encore une fois, vraiment, pour nous, c'est lié à la question de cadrage et de cadrage.
Et deuxièmement, une caractéristique de la cosmos est d'être simplement là, sans qualité, sans passé, sans avenir, en absolue déréliction et cependant foyer virtuel de complexité sans borne. Et ça, pour nous, a beaucoup à faire avec la question de créer d'inventer des corps et des figures du cinéma plutôt que de personnages classiques, même si les deux choses sont toujours un peu mélangées. C'est peut-être la question de trouver l'homme sans ou la femme sans qualité dans les personnages classiques, c'est cette foyer là.
Et par rapport au montage, déjouer les significations aux positions binaires, partir par des blocs de sensations, c'est-à-dire un montage pas narratif, pas linéaire, mais l'idée d'un montage qui marche selon d'autres critères, et notamment par des blocs de sensations, de rythme, d'intensité.
Et de retrouver la dimension de l'incommensurabilité dans le montage, ça ouais. C'est très important.
Et le quatrième point, après on termine, Pascal, c'est par rapport à le rapport son-image. La parole ordinaire s'efforce de conserver vivante la présence d'un minimum de composantes sémiotiques non-verbales, conjurant le despotisme de la circularité signifiante. Et du coup, l'idée de... Bon, déjà, vous, des cinéastes, vous pratiquez cette idée de disjonction son-image. Et le dernier point...
Et le dernier point, c'est l'interface ni dedans ni dehors, agencement où l'agencement n'est pas donné, mais quelque chose qui doit travailler pour vivre, se processualiser. Et c'est un peu l'idée d'un cinéma processuel qui fait un cinéma de l'événement, ce qui passe on est ouverte à ce qui passe devant les caméras et dans un travail avec les acteurs et aussi dans le montage, de faire travailler l'agencement et par rapport, par exemple, les traits expressifs, qu'une image n'est pas simplement quelque chose qui apparaît et disparaît, mais quelque chose qu'on continue à travailler dans le film par rapport à une morphogenèse des traits expressifs. Ça, c'est une chose très importante aussi. Voilà.
Et donc, on termine avec un petit remix, réagencement des traits expressifs qui peut se brancher sur l'infraquark. C'est un petit montage de 2 minutes. Mais avant, je voulais juste remercier Pascal parce que la relecture de Chaosmos nous accompagnait, bon, pas seulement sur ce travail sur le scénario de Guattari qu'on mène avec Isabelle et que bon, c'est compliqué, mais surtout dans cette période historique un peu dure qu'on vit maintenant en Europe, pas seulement, mais, et du coup c'est vraiment un bonheur de relire avec vous ce livre incroyable. Pour moi, ça fait, je l'avais déjà lu en Italie, en anglais. Et je dois dire que c'est seulement maintenant que ça devient une machine et c'est très excitant. Seulement quand j'avais lu pour la deuxième fois 1000 plateaux que j'ai eu cette sensation d'euphorie permanente. Et, bon, c'est un peu naïf de dire ça, mais quelquefois on a besoin aussi de se dire des choses comme ça. Et ainsi, je veux remercier Emmanuel Guattari et Erika Kramer qui ne sont pas là parce qu'ils nous ont encouragés beaucoup sur ce projet de scénario. Et évidemment, donner l'autorisation à travailler les archives. Et voilà. Merci.
Do you have a voice like? Do you have a voice like? Do you have a voice like? Mine? Do you have a voice like?
As in the shadow?
Do you have a voice like? Do you have a voice like mine? Do you have a voice like? Do you want a voice like mine? Do you want a voice like mine? Do you want a voice like? Do you want? Do you want a voice like? With a voice like mine, what would you want a voice like? Do you want a voice? Do you want a voice like? What would you do with a voice like? What would you do? How would you survive? Would you seize? Would you hide? Would you seize? Would you dissect it? Ingest it, roll it around on your tongue, and then what? And then what? And then what? Would it give you pleasure? Would it get you in? Would it take you away? Gently? With a light touch? Take it out. Take it away. Take it. How can you? Take it out. Take it away. Take it. Gently? With a light, roll it around on your pleasure. And then what? 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 And then what?
Bon, je remercie Sylvia Egren pour ces quelques minutes parce que c'est de travailler sur ce scénario, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, c'est. Vraiment, il faut se laisser contaminer, quoi, complètement contaminer. Je voudrais reprendre peut-être, juste pour... Il y a 3 versions de ce scénario. Il y en a 2 avec Robert Kramer et puis une 3e plus tard en 86. Et chaque version est en quelque sorte une mutation. Donc, si on veut un peu suivre le fil linéaire de cela, bah, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à chaque fois et se reperdre dedans et être de nouveau dans ces... être un alien. Quelles sont les questions que et la relecture de ces deux chapitres de Chaosmos et le fait d'être totalement en alien dans ce scénario de Guattari, la question qui m'a un tout petit peu tracassée, c'était vraiment que de faire la différence plus clairement pour moi entre l'affect et le sentiment. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fonctionne dans ce scénario qui fait qu'on circule avec tous ces personnages, qu'on dégringole, avec cette alien, etc. Et j'ai cherché un peu une définition, disons, de l'affect qui ne soit pas prise entièrement dans les écrits de Guattari, pour essayer de trouver une traduction imparfaite et qui puisse rendre compte aussi de ce que je ressentais dans la lecture de ce scénario. Et je l'ai trouvé plus clairement dans les films de Beata, puisqu'on a eu une rétrospective il n'y a pas longtemps, et il a une définition qui me semble correspondre un petit peu aussi à ce que Guattari nous dit aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que un affect, c'est un élan du vivant au sein du désastre. Et donc Bellata dit faire l'histoire du vivant, c'est faire l'histoire de sa destruction, de ce qu'il endure. Donc ça, c'est une première chose. Le sentiment, le vampirisme du sentiment, donc on n'est pas du tout dans ça dans le scénario. Il n'y a aucun sentiment, vraiment aucun sentiment. L'amour de l'alien vis-à-vis de Yanis ou dans les autres versions, je ne sais pas comment dire, il est processuel, il est dans l'interface, il est tyrannique, il est mimétique, il est transitif, il est et puis ça se termine donc par le fait que il vient s'implanter dans le cerveau de cette jeune femme. Et bon, ça j'en parlerai rapidement tout à l'heure. Il y a cette question là donc j'avais besoin un peu de préciser en la traduisant autrement, et d'autre part la question du réel antérieur qu'on trouve aussi, c'est-à-dire le fait que Guattari nous dit qu'il n'y a pas un réel où on lèverait le rideau et il y avait quelque chose de caché, une signification, etc., mais que le réel cache le réel, cache le réel, cache le réel. Et comment, par quel processus, par exemple, il y a des mutations, enfin, comment ça se fait qu'il y a des mutations dans ce scénario, et pas seulement dans ce scénario, dans le scénario de science-fiction aussi, et dans le film de Bellatar notamment, les harmoniques de Bergmeister, où vous avez une baleine énorme qui vient à un moment donné dans ce village de Hongrie, une baleine pourrie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il y ait ce réel intérieur qui surgit sous forme de, donc là, des mutations d'enfants, de poissons, de l'octopus, de pieuvres, etc. Et donc, ça permet de repréciser simplement peut-être le fait qu'il y ait la question de l'involution créatrice, c'est-à-dire que l'alien finalement et le mutant sont complètement nécessaires parce que pour qu'il n'y ait pas d'évolution, pour qu'il n'y ait pas de signification, il y a besoin d'un,
d'un alien qui s'involue dans un humain ou ailleurs. Et c'est dans ce point noir, en quelque sorte, qu'il va trouver là, hors signification, que va arriver ce réel intérieur, c'est-à-dire cette narration ancienne qui est prise comme ça, qui ressurgit comme un bloc, et qui va se balader comme donc dans le film de Bélatar. Bon, je vais pas être trop long, donc je vais juste parler aussi un tout petit peu du deuxième chapitre qu'on avait à étudier aujourd'hui. Sur l'oralité machinique. Alors là, ce qui m'aide beaucoup à comprendre ça, c'est l'article de Julie Ronick en 96, qui s'appelle Schizoanalyse et anthropophagie. Où elle explique comment l'hétérogénèse, en quelque sorte, au Brésil, fait que, par exemple, le colonisé va avaler et va manger le colon. C'est-à-dire que l'image d'Épinal du colonisé qui a une grande marmite et qui mange le blanc, ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire que donc elle explique très bien que le but, c'est de donc en mangeant, en avalant le colon, les mutations il y a un mélange, sont hybridées toutes les matières, en quelque sorte, les mentales, les culturelles, les physiques, etc. Et que ainsi, par un processus là aussi d'involution créatrice, une nouvelle mutation peut peut-être s'opérer. Alors évidemment, elle est prudente, puisque elle dit que c'est aussi possible que des lignes de dominance se retrouvent, notamment identitaires, mais que c'est tout de même, elle emploie ce terme-là, un bon vaccin d'avoir à disposition comme ça des doses d'hétérogénèse. Et je vais terminer rapidement en disant que finalement, j'avais pas pensé à ça, mais quand l'alien a sa tête défendante, disons, a son corps défendant, vient s'implanter dans la tête de, donc dans nos têtes, dans nos têtes à nous aussi, de Janice, et peut-être que c'est une forme de vaccin. Et ce qui est très émouvant dans ce scénario, c'est que le Eric, le schizo, qui a un rôle très important, qui est très actif, qui protège d'une certaine manière avec des... Bon, il a tous ses doubles, il a ses miroirs brisés, il est très actif pour contre la police, parce qu'il y a des attaques, des explosions, on cherche à ce que lui que disparaisse, etc. Donc il est très actif vis-à-vis de ça. Et donc il est en quelque sorte garant qu'un monde identitaire, il protège lui, qu'un monde identitaire n'arrive pas.
En fait, je passe la parole à Flore Carcin-Marron, qui va aussi nous parler d'un corpus de textes et d'écrits de Guattari. Donc le premier qu'on a évoqué là jusqu'à maintenant, c'est Wick, le projet, hein, un amour Wick,
qui est donc un projet de film sur lequel Graham et Sylvia nous ont parlé de leur processus de découverte, d'exploration. Et maintenant, Flore nous parle de l'aspect du théâtre qu'a écrit Guattari.
Merci. Donc effectivement, cette question du théâtre, je l'ai étudiée dans ma thèse, que j'ai soutenue en décembre, fraîchement donc. Et lors de mes recherches, j'ai découvert l'existence de ces 6 pièces de théâtre qui sont inédites à ce jour, qui sont conservées donc à l'IMEC, c'est l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines qui se situe à Caen et qui conserve donc le fonds Félix Guattari. Et donc ces 6 pièces de théâtre ont été écrites entre 1979 et 1990. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces pièces de théâtre. La première pièce de 1979, qui s'appelle L'affaire du sac de chez Lancel, est une pièce d'agit-prop. Ensuite, il y a Socrate, le maître de lune, Visa le noir, tu as le blanc, et Psyché ville morte, qui sont 4 pièces d'inspiration plutôt dadaïste, on va dire. Pour être très schématique, il y a la dernière pièce qui s'appelle La nuit, la fin des moyens, qui est une pièce de théâtre fleuve, puisqu'elle fait environ 90 pages. Et la pièce la plus métaphysique, on pourrait dire, même si c'est un gros mot, la plus profonde, existentielle, de Félix Guattari. Pascal Criton m'a invité, m'a suggéré de livrer ce soir quelques-unes de mes réflexions autour des chapitres 4 et 5 de Chaosmos, et j'y ai vu forcément du théâtre. Alors bon, c'est peut-être une obsession personnelle, mais j'aimerais simplement donc vous pointer quelques endroits de ce texte qui montrent que Guattari, en plus d'être évidemment proche des problématiques liées au cinéma, et aussi tient aussi à avoir un pied dans le théâtre, l'écriture dramatique et les problématiques proprement théâtrales. Et comme donc je n'ai que 5 ou 7 minutes, il me reste 5 minutes, donc je vais évoquer seulement 2 points, voilà, pour vous donner une idée d'ensemble de cela. Alors, à la lecture de ce chapitre 4, ardu, hein, comme les précédents, touffu, dont je ne suis vraiment pas sûre, évidemment, d'en avoir saisi tous les tenants et les aboutissants, j'ai remarqué quelque chose au niveau de l'énonciation des idées. Guattari fait preuve d'une certaine dramatisation des idées. Alors, pour ceux qui ont lu Différence et répétition, la dramatisation, évidemment, c'est un concept plus deleuzien que guattarien. Ça, c'est incontestable. Mais je pense que Guattari n'est pas exempt d'une mise en forme particulière du surgissement de ces idées. Par exemple, je lis page 116, je cite « Les signaux poursuivent leur ronde ». Je lis aussi page 117 « L'évocation des danses machiniques ». Et donc il y a une certaine volonté de spatialiser les idées qui montre que Guattari pense par des images. Et ce qui me permet d'affirmer cela, c'est que dans son théâtre, Guattari reprend ses idées qu'il met en scène, et il les met véritablement en scène au sein d'une écriture dramatique. Et parfois, cela donne des situations assez délectables, assez absurdes. Alors, par exemple, la traduction scénique des chaînons de discursivité qu'on trouve page 116 dans Chaosmos, Donc cette, la traduction scénique apparaît dans la pièce qui s'intitule « Visa le noir, tua le blanc ». Alors, je vais donc vous lire la traduction scénique de ces fameux chaînons de discursivité. Les chaînons, ce chaînon de discursivité est représenté donc par une série de personnages qui sont donc décrits dans une didascalie, donc je la lis. A, donc c'est un personnage, les personnages sont notés par des lettres, un peu à la Beckett. A ouvre la petite porte du fond et C réapparaît. Cette fois, il sort avec résolution. Il va ouvrir les lumières. N et B ne sont plus visibles. Et voilà qu'intervient la chaîne, le chaînon. D'autres personnages en bleu de travail sortent par la porte, mais à un intervalle d'environ 6 mètres qui sera respecté au cours de toute la scène. En deçà de cet intervalle, personne n'apparaît. C'est comme si une chaîne processionnaire de doubles se constituait à partir de C. Ensuite, ces doubles feront les mêmes pas et les mêmes gestes que C. Le cas échéant, leurs membres pourraient être attachés les uns aux autres par des fils invisibles de nylon. Ils s'affairent auprès d'une machine électronique musicale dont, au départ, les éléments sont épars. Pour en rassembler les éléments, le fait qu'ils doivent respecter leur distance sera source de difficultés, de détours, de toutes sortes. Donc déjà, Chaosmos, c'est compliqué à lire. Alors imaginez bien l'embarras d'un metteur en scène qui doit traduire scéniquement une telle didascalie. Bien. J'ai relevé aussi une autre expression dans Chaosmos, c'est... Il parle, page 115, de la prise en gelée existentielle. Et il y a donc une traduction scénique de cette prise en gelée existentielle dans une autre pièce, la pièce qui s'appelle « La nuit, la fin des moyens », dont je vais vous lire le passage. On est au début de la pièce et les personnages n'ont pas encore pris... leur de consistance. Et ce sont des espèces d'entités molles, flottantes, gélatineuses. Et voilà donc comment, dans une didascalie, Guattari décrit ces personnages. Lentement, une masse gélatineuse bleue, translucide, s'éclaire à gauche, au sein de laquelle est figé un homme, Ralph, les bras écartés. Puis, symétriquement à droite, s'éclaire une masse gélatineuse rouge, au sein de laquelle une femme, Midori, est figée. Bon, alors je passe un peu les bizarreries qui suivent. La didascalie qui suit, par exemple, dit... et ça rejoint peut-être UIQ un peu, des planètes aux formes étranges et d'intensité variable décrivent de lentes trajectoires entrecoupées de brusques bifurcations, entrées au pas de course de la horde des chiens jaunes qui se met à tourner autour de Color, un autre personnage. Leurs répliques réitérées sont aboyées dans une grande confusion. Bien, voilà. Donc ça, c'était donc pour vous dire... voilà, un certain type de dramatisation qu'on peut trouver dans Chaosmos et qui trouve des traductions scéniques dans le théâtre. Et le deuxième point vraiment que je ne développerai pas mais que je nommerai juste, c'est que dans le chapitre 5, Guattari théorise rarement le théâtre dans ses écrits, mais dans le chapitre 5, on trouve... un paragraphe qui est consacré à la performance théâtrale et donc ce passage est essentiel. Je vous invite à le relire. Il est page 125. Je ne sais pas si j'ai le temps de le lire. Je vais... Alors, page 125, Chaosmos. L'art de la performance livre l'instant au vertige de l'émergence d'univers à la fois étrange et familier. Il a le mérite de pousser à l'extrême les implications de cette extraction de dimensions intensives, atemporelles, aspatiales, assignifiantes, à partir du maillage sémiotique